Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série concernant la rédemption. Aujourd'hui, nous allons faire une brève récapitulation de ce que nous avons appris par l'Ancien Testament. Car c'est important de voir les principaux points pour bien comprendre et surtout pour que nous puissions continuer dans le Nouveau Testament. Chers amis, avant d'en venir à la période suivante, je ferai quelques remarques destinées à compléter ce qui a été dit à l'égard de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Premièrement, d'abord tout ce qui a été dit, nous avons tout droit de conclure que Jésus de Nazareth est véritablement, et oui, véritablement, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et que le christianisme est vraiment la seule et véritable foi chrétienne, ou si vous voulez, religion, que nous devons respecter. Quand on voit que Christ est évidemment la personne désignée dans toutes les grandes dispensations de la Providence, à partir de la chute de l'homme, et qu'il a été annoncé de siècle en siècle, et préfiguré par une grande variété de types et de figures, si nous considérons sérieusement, si nous considérons le cours des choses depuis le commencement, et si nous observons la suite des grandes dispensations providentielles, eh bien nous voyons qu'elles tendent toutes vers ce même but. Ce sont donc tout autant de signes que si on les observe et si on les suit avec soin, se trouvent avoir là leur centre. Du reste, c'est si clair dans plusieurs choses que ce serait faire preuve de stupidité que de le nier. Ce personnage merveilleux qui a été envoyé par Dieu le Père, il vient dans le monde avec ses ordres et avec l'autorité de faire son œuvre et pour déclarer sa volonté. C'est là ce que le gouvernement du monde n'a cessé de déclarer jusqu'à la naissance de Christ par toute ces grandes dispensations envers les juifs et les gentils, ce qui veut dire les non-juifs. C'est donc là une vérité claire et évidente que celui qui est né à Bethléem, celui qui habite à Nazareth et Capernaum et qui fut crucifié en dehors des portes de Jérusalem, devait donc bel et bien être le grand Messie qui avait été promis. Bienheureux donc sont ceux qui croient en lui et qui le confessent, et malheureux sont tous ceux qui le renient. C'est vrai. Cela montre l'inconséquence des déistes qui, eux, nient la révélation, et des juifs aussi, qui nient que ce Jésus pourrait bien être leur Messie prédit et qui a été promis pour l'humanité. Si quelqu'un objectait que des hommes habiles peuvent avoir inventé cette histoire et ces prophéties dans le but de montrer qu'il est le Messie, on pourrait répondre, Voyons, comment peut-on concevoir que des hommes habiles aient ainsi désigné Jésus-Christ longtemps, très longtemps, avant sa naissance? Comment pouvaient-ils savoir qu'il naîtrait un pareil personnage? Et comment pourrait-il avoir prévu, oui, c'est de prévoir, c'est pas le tout, et d'annoncer un événement qui ne devait avoir lieu que tant de siècles beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Car il n'est pas de fait plus certain que celui-ci, c'est de savoir que les Juifs avaient ces écrits bien longtemps avant la naissance de Christ, ils les tiennent encore en grande vénération, maintenant qu'ils ont été dispersés dans tout le monde. Ils ne se seraient pas prêtés à une pareille invention de la part des chrétiens pour prouver simplement que Christ, qu'ils ont toujours renié, était vraiment le Messie. Ils auraient été encore moins induits à croire qu'ils avaient toujours eu ces livres entre les mains s'ils avaient été, disons carrément, une invention. Deuxièmement, ce qui a été dit fournit une grande preuve pour la divine autorité des livres de l'Ancien Testament par suite de l'harmonie admirable avec laquelle ils ont tous désigné le même événement. Car nous pouvons voir par ce qui a été dit comment toutes les portions de l'Ancien Testament, bien qu'écrites par beaucoup d'autres différents et des époques si éloignées, s'accordent absolument parfaitement ensemble. Oui, ils s'accordent tous sur un événement qui leur sert de centre et qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir jamais si ce n'est par révélation. Maintenant donc, si l'Ancien Testament n'était pas inspiré de Dieu, comment expliquer une pareille harmonie? Car si ces livres ont été écrits sans aucune direction divine, alors aucun des auteurs ne savait qu'il y aurait dans le monde un homme tel que Jésus. Sa venue était un pur rêve de leur imagination, et s'ils en étaient ainsi, comment, oui, comment se fait-il que ces rêves qu'ils ont annoncés d'avance, sans aucun fondement pour leur prédiction, se soient si exactement accomplis? Et surtout, comment ont-ils pu tous s'accorder? Comment se fait-il qu'ils aient tous annoncé la même chose, bien qu'ils aient vécu à plusieurs siècles de différence et de distance les uns des autres? Voyez-vous, cette harmonie et cet accord admirable au sujet d'un événement futur, et par conséquent, c'est une preuve très claire, une preuve certaine de la divine autorité de ses écrits. Troisièmement, par là, nous pouvons voir combien est faible l'objection qu'on fait de son ignorance contre la divinité des écrits de l'Ancien Testament, parce qu'il renferme tellement d'histoires de guerre et de transactions civiles. Nous avons là, disons, on peut dire, nous avons là l'histoire de tous leurs rois et de leurs gouverneurs. Nous avons là le récit de leur guerre avec leurs voisins et des changements qui ont eu lieu dans l'État et dans le gouvernement. Mais d'autres nations ont conservé l'histoire de leurs affaires publiques aussi bien que les Juifs. Pourquoi donc supposerions-nous que ces histoires sont la sainte parole de Dieu plus que celle d'autres peuples? Voyez-vous, ce qui a été dit montre bel et bien la vanité et la folie d'une pareille objection. Car on voit par là que le cas de ces histoires est tout différent de celui de toutes les autres. Cette histoire, elle est la seule qui nous donne le récit de l'origine de toutes choses. Seule, elle fait admirablement provenir tout ce qui suit de cette source et, pardon, et elle nous donne une idée absolue du grand plan de la Providence pour atteindre son grand but. Et avec les doctrines et avec les prophéties qu'il renferme, ce même livre, il nous donne un aperçu de toute la suite des grands événements providentiels depuis l'origine jusqu'à la consommation de toutes choses. Il présente donc un excellent et magnifique récit des projets sages et saints du souverain arbitre de toutes choses. Il n'y a pas d'histoire ordinaire qui ait eu, on peut dire, un pareil auteur. Cette histoire, elle a donc été toute écrite par des hommes qui ont été accompagnés de signes et de témoignages absolument certains qui attestaient qu'ils étaient les prophètes du Très-Haut et immédiatement ils ont été inspirés par Dieu lui-même. Et tout en étant composés d'histoires contenant tous ces grands événements providentiels qui montrent comment Dieu a poursuivi sa grande œuvre de la rédemption à travers tous les siècles, cette portion de l'histoire n'est pas moins remplie d'institutions divines et de ces choses qui annoncent Christ et son évangile. Il est donc absolument absurde de contester le caractère divin d'un livre parce qu'il renferme une histoire, comme si la sainte parole de Dieu elle-même ne pouvait pas donner le récit de ce qui s'est passé ou comment il n'était pas raisonnable de supposer que Dieu, en se révélant à l'humanité, donne le récit des dispensations de sa propre providence. S'il ne le fait pas, il faut supposer que ses œuvres ne méritent pas qu'on en fasse mention ou que le plan de son gouvernement est la suite de ses dispensations envers son Église et envers le monde ne sont pas assez importantes pour que le récit en soit conservé. L'objection donc tirée de la circonstance que toutes les nations et tous les royaumes ont l'habitude d'écrire des histoires et de préserver le récit de leur guerre et de leur révolution est si loin d'être concluante pour prouver, oui, pour prouver que la partie historique des Saintes Écritures ne saurait être la sainte parole de Dieu et qu'elle est, au contraire, un argument en faveur. Car voyez-vous, si la lumière naturelle enseigne à toutes les nations civilisées à garder le récit des événements de leur gouvernement, la suite des diverses administrations et à publier des histoires pour l'instruction des autres, eh bien combien plus sommes-nous, chers amis, en droit de supposer que Dieu donnera au monde le récit des dispensations de son gouvernement qui mérite beaucoup plus d'être relaté pour notre instruction. Si de sagesse, on peut dire par les rois, si de sages rois ont pris soin, il faut bien le dire, qu'il y a eu des bonnes histoires des nations qui sont absolument vérifiables et vraies, sur lesquelles ils ont régné, supposerons-nous incroyable que Jésus-Christ ait pris soin que son Église et son royaume et son peuple particulier a eu une histoire infaillible de sa nation et de son gouvernement. Sans l'histoire de l'Ancien Testament, dans quelle affreuse ignorance ne serions-nous pas au sujet de beaucoup de choses qu'il importe à l'Église de Dieu de connaître? Que saurions-nous de la conduite de Dieu envers l'humanité et envers son Église dans le commencement? Quelle connaissance aurions-nous de la création du monde ainsi que de la chute de l'homme et du développement et du progrès de ses dispensations miséricordieuses envers l'humanité déchue? Nous ne saurions ni comment Dieu a établi d'abord une église dans le monde, ni comment il la préserva. Nous ignorerions donc son genre de gouvernement dès le commencement, et nous ne saurions pas comment la lumière de l'Évangile a commencé d'abord à poindre dans le monde, et comment elle s'est accrue, et comment tout s'est préparé pour la venue de Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, eh bien nous faisons partie de ce grand édifice, et sans l'histoire de l'Ancien Testament, nous n'aurions jamais su quelle fut la première occasion de cette construction et comment le fondement en fut posé, ni comment sa construction a marché depuis le commencement. L'histoire de l'Ancien Testament embrasse en grande partie des temps sur lesquels les autres histoires ne disent rien, et par conséquent, si Dieu n'avait pas préservé dans sa sainte parole le récit de ces choses, nous ne les aurions jamais connues. Alors ceux qui font des objections contre l'autorité, on peut bien le dire, de l'histoire de l'Ancien Testament, pourraient aussi bien en faire contre le récit mosaïque de la création. Car dans celle-là, nous avons l'histoire d'une œuvre non moins importante, à savoir l'œuvre de la rédemption. Il y a plus, oui, beaucoup plus, car cette œuvre, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus magnifique. Si on demande quelle est l'œuvre la plus grande, celle de la création ou celle de la providence, alors il faut répondre que c'est l'œuvre de la Providence, mais l'œuvre de la rédemption, elle est la plus grande des œuvres de la Providence. Je répète, mais l'œuvre de la rédemption est la plus grande des œuvres de la Providence. Et que ceux qui font cette objection se demande de quelle portion de l'histoire de l'Ancien Testament on pourrait se passer sans qu'il y eût une grande interruption dans le fil ou dans la série des événements qui ont avancé cette œuvre magnifique. Cela me conduit donc à observer, quatrièmement, que d'après ce qui a été dit, nous pouvons voir la grande sagesse de Dieu dans la composition de différentes parties des Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Passons brièvement en revue ces diverses portions et voyons un peu combien nécessaires elles étaient. Voyez-vous, il était nécessaire, par exemple, que nous avons eu un récit de la création du monde, de l'histoire de nos premiers parents et de leur état primitif. Nous avions aussi besoin de connaître quelque chose sur la chute, oui, sur la chute, sur l'ancien monde et sur sa décadence, sur le déluge ensuite, universel, pas seulement une région de Genève, je plaisante, et sur l'origine des nations après cette destruction de l'humanité. Il semble qu'il était de plus nécessaire d'avoir un récit de la perpétuité de l'Église de Dieu depuis le commencement. Dieu a laissé tout le monde se corrompre et a fait choix d'une nation pour être son peuple particulier afin de préserver le vrai culte et la vraie religion jusqu'à la venue du Sauveur du monde. Et par ce moyen, le monde a été peu à peu préparé pour cette grande lumière et pour les choses admirables qu'elle devait accomplir. Les Israélites ont été ainsi une nation typique par le moyen de laquelle Dieu a annoncé et a enseigné comment, sous un voile, toutes les gloires ont été de l'Évangile, toutes les gloires futures concernaient l'Évangile. Il nous était donc nécessaire, chers amis, de connaître comment la vocation d'Abraham, l'esclavage en Égypte et l'émigration des fils de Jacob en Canaan contribuèrent à assurer ce résultat. Il était donc nécessaire d'avoir quelques récits des révélations de Dieu aux Israélites quand il leur a donné leur loi et qu'il a établi leur culte typique sous lequel se cachait l'Évangile et quand il institua leur gouvernement civil et ecclésiastique. Il semble qu'il était nécessaire que nous avions quelques récits de leur établissement en Canaan, cette terre promise dans laquelle ils se sont fixés définitivement. Nous avions donc besoin d'avoir une histoire de l'Église d'Israël, des dispensations les plus importantes de Dieu à leur égard, qui annonçaient le plus complètement les mystères évangéliques. Nous avions donc besoin de savoir quelque chose de la gloire extérieure promise à cette nation sous David et Salomon et de connaître dans tous ses détails ce qui concerne David dont l'histoire est si pleine de l'Évangile et qui fut le père de la race de ses rois. Nous avions aussi besoin également d'un récit de la construction du temple qui fut si plein aussi de mystères évangéliques, et il importait que nous avons obtenu quelques récits de la séparation d'Israël de Juda, de la captivité des 10 tribus, de leur entière réjection, et par conséquent un abrégé de leur histoire jusqu'à ce temps-là. Il fallut donc avoir le récit de la succession des rois de Juda et des affaires de l'Église jusqu'à leur captivité à Babylone. Il était également nécessaire d'avoir une histoire de leur retour de la captivité, de leur rétablissement dans leur pays, et de connaître l'origine du dernier établissement ecclésiastique avant la venue de Jésus-Christ. Un instant de réflexion, suffira donc pour nous convaincre que toutes ces choses étaient vraiment nécessaires et qu'on ne pouvait se poser d'aucune et qu'en général, il était nécessaire d'avoir une histoire de l'Église de Dieu jusqu'à l'époque où commencent les histoires humaines. Il importait donc d'avoir une histoire inspirée de ces temps de l'Église juive dans lequel il y avait entre Dieu et l'homme des rapports plus extraordinaires alors qu'ils habitaient parmi eux, oui, en quelque sorte, et cela d'une manière visible, se révélant par la Tchekina, par l'Urim et le Thummim, et par les prophètes, par les prophéties, pour régler ainsi leurs affaires d'une manière plus immédiate. Il était aussi nécessaire d'avoir dans la prophétie quelques renseignements sur les dispensations de Dieu après la fin de l'histoire inspirée. Il fallait pour cela qu'il s'élevât un certain nombre de prophètes pour prédire la venue du Fils de Dieu et la nature et la gloire de son royaume comme autant de précurseurs pour préparer sa venue et que leur prophétie avait été conservé dans l'Église. Il était également désirable que l'Église a eu un livre de chants sacrés donné par inspiration divine, renfermant des exemples de vraie piété, de foi, d'espérance, d'amour de Dieu, de joie, de résignation, d'humilité, d'obéissance et de repentance, etc., comme le livre des psaumes. Il nous fallait donc aussi des livres d'instruction morale, comme les proverbes, ainsi que l'Ecclésiaste, qui se rapporte aux affaires et à l'état de l'humanité, aux circonstances de la vie, et qui renferme des maximes de vraie sagesse et de prudence pour régler notre conduite dans toutes les rencontres. Il fallut aussi un chant particulier sur le grand amour de Jésus-Christ pour son épouse qui est l'Église, adapté aux dispositions et aux saintes affections d'une âme vraiment chrétienne pour Jésus-Christ et représentant sa grâce et son amour pour son peuple comme le Cantique des Cantiques. Il était donc important aussi que nous avions un livre qui nous enseignât comment il faut se conduire dans l'affliction. Vu que l'Église de Dieu est ici-bas dans un état militant et que c'est par beaucoup de tribulations que le peuple de Dieu est appelé à entrer dans le royaume des cieux. L'Église est pour longtemps dans l'agitation et l'Église passe par de cruelles épreuves et de grandes souffrances avant d'atteindre ces jours de repos et de paix dans les derniers âges du monde. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un livre particulièrement approprié pour ces circonstances, celui de Job. Et bien qu'il ait été écrit à l'occasion des souffrances d'un fidèle très isolé, il fut probablement donné pour la première fois à l'Église au milieu de ses souffrances en Égypte. Un apôtre le cite afin de soutenir le courage des chrétiens sous la persécution. Il dit « Vous avez appris quelle a été la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Jacques, chapitre 5, verset 11. Dieu a donc donné aussi dans ce livre de Job quelques aperçus de l'ancienne théologie avant la promulgation de la loi. Voyez-vous, cette courte revue, elle nous montre donc que chaque portion de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament est très utile et très nécessaire et qu'on ne peut se priver d'aucune d'elles sans que l'Église éprouve une véritable perte. Dieu, donc, a manifesté sa sagesse en faisant entrer dans la composition de l'Ancien Testament précisément ces livres qui en font partie. Avant d'en finir avec ce sujet, j'ajouterai qu'on peut très bien voir que l'histoire de l'Ancien Testament est étendue et détaillée quand la grande œuvre de la rédemption le réclame, alors qu'il est beaucoup fait pour l'avancement de cette œuvre, pour représenter Christ et pour lui préparer la voie. Ainsi, le récit est très détaillé, alors qu'il s'agit de l'histoire d'Abraham et des autres patriarches, tandis qu'il est très court quand il s'agit du temps que les enfants d'Israël ont passé en Égypte. L'histoire s'étend donc beaucoup sur la sortie d'Égypte et sur l'établissement de l'Église et de l'État du temps de Moïse et de Josué, tandis qu'elle ne dit presque rien sur l'époque des juges. Elle redevient de nouveau complète et détaillée dans les jours de David et de Salomon pour passer très rapidement sur les règnes suivants. Et c'est ainsi que les récits sont longs ou courts, suivant qu'ils se rapportent plus ou moins à l'œuvre de la rédemption. J'aimerais demander à ceux qui ont et qui possèdent l'Internet de consulter sur leur Internet www.bibleexplique.ch et de écouter attentivement la série d'études que j'avais données en son temps sur la Genèse, très très important, et plus tard toute la série concernant les prophéties. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre tout ce que nous donnons de cette histoire de la rédemption. Cinquièmement, d'après ce qui précède, nous voyons que Christ et sa rédemption sont les grands sujets dont s'occupe la Sainte Bible tout entière. La chose est donc très claire pour ce qui est du Nouveau Testament, et d'après ce que nous avons dit, nous voyons qu'il en est de même pour l'Ancien. Christ et sa rédemption sont les grands sujets des prophéties, aussi bien que des psaumes de l'Ancien Testament, comme nous l'avons montré, et les maximes morales et les préceptes sont tous donnés en vue de lui. Christ et donc sa rédemption sont aussi le grand sujet de l'histoire de l'Ancien Testament du commencement à la fin. L'histoire même de la création, elle est donnée comme étant une introduction à celle de la rédemption qui suit immédiatement. Le livre entier, l'Ancien et le Nouveau Testament, est plein de l'Évangile avec cette seule différence que l'Ancien Testament contient l'Évangile voilé, tandis que le Nouveau le présente dévoilé, afin que nous puissions voir la gloire du Seigneur et à face découverte. Sixièmement, chers amis, ce qui précède
montre l'utilité et l'excellence de l'Ancien Testament. Quelques personnes sont disposées à le considérer comme hors d'usage. Figurez-vous, supposant que dans ces jours de l'Évangile, nous n'en avons guère besoin aujourd'hui. Eh bien, c'est là une grande erreur venant de ce qu'ils ne remarquent pas quelles sont la nature et le but de l'Ancien Testament. Et si on le faisait, eh bien, on verrait qu'il est plein de l'Évangile de Christ et qu'il confirme et qu'il illustre, d'une manière très remarquable la grande doctrine et les promesses du Nouveau Testament. Ces portions de l'Ancien Testament qu'on regarde généralement comme contenant le moins d'instructions divines sont des mines et des trésors de science évangélique. Et si on suppose qu'elles en renferment si peu, c'est qu'on ne les lit que superficiellement. On ne sait pas découvrir les trésors cachés. On se contente simplement de jeter un coup d'œil sur la surface du sol et on déclare aussitôt après qu'il n'y a rien. On ne creuse jamais la véritable mine. Si on le faisait, eh bien on trouverait qu'elle est richement fournie de choses beaucoup plus précieuses que l'argent et l'or, et on serait richement récompensé de ses peines. Ce qui précède montre quel précieux trésor Dieu a placé entre nos mains en nous donnant la Sainte Bible. Combien peu de personnes réfléchissent aux privilèges qu'elles ont dans la possession de ce merveilleux livre qu'elles tiennent dans les mains et qu'elles peuvent lire comme elles veulent et quand elles veulent. Quel excellent livre que celui-là, et comme il est de beaucoup supérieur à tous les écrits humains. Septièmement, ce qui a été dit, chers amis, nous montre combien de personnes sont à blâmer pour leur manière superficielle et légère de lire les Saintes Écritures. Que de choses les Saintes Écritures renferment, si seulement on savait les découvrir. La Sainte Bible, elle est le livre du monde le plus aisé à comprendre. Mais à quoi cela nous servira-t-il si nous le lisons sans remarquer ce que le Saint-Esprit se propose à nous faire comprendre? Le psalmiste demande à Dieu de desceller ses yeux afin qu'il puisse contempler les merveilles de sa loi. Les saintes écritures sont donc pleines de choses merveilleuses. Ces histoires qu'on ne lit trop souvent qu'en supposant que ce sont les affaires privées et quelques individus, simplement comme de Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, de Ruth, de Josué, des juges, peut-être encore de David et des princes d'Israël, sont le récit de choses bien plus importantes et ont une bien plus haute portée que nous pouvons imaginer. On dit trop souvent que les Saintes Écritures, dans la supposition qu'elles sont seulement écrites pour satisfaire la fantaisie des hommes, et on passe sans remarquer les grandes choses qu'elles contiennent. Quels que soient les trésors que contiennent les Saintes Écritures, ils ne nous profiteront de rien si nous ne les remarquons pas. Celui qui a la Bible et qui ne s'aperçoit même pas de ce qu'elle renferme, eh bien, il ressemble à un homme ayant une boîte qui est pleine d'argent et d'or sans le savoir. Donc, il n'en sera pas plus avancé malgré son grand trésor, et c'est tout comme s'il ne l'avait pas. Et huitièmement, ce qui a été dit nous montre bel et bien quel grand personnage est Jésus-Christ et combien grande est sa mission dans le monde, puisque tant de choses ont été faites pour préparer la voie à sa venue. Dieu, depuis le tout commencement, avait donc préparé sa venue à travers tous les âges du monde. Si, ayant appris qu'un étranger est sur le point de visiter son pays, nous remarquions que de grands préparatifs sont faits en vue de lui, que des changements sont faits dans tous les pays, que bien des mains sont à l'œuvre et que des personnes de qualité s'occupent des préparatifs et que, de plus, toutes les affaires du pays et des intérêts soient subordonnés au projet de l'accueillir, eh bien nous supposerions naturellement que c'est quelques personnages extraordinaire et qu'il vient pour que quelques affaires très importantes puissent avoir lieu. Quel grand personnage doit donc être celui dont le grand Dieu des cieux et de la terre, le maître de toutes choses, a préparé la venue pendant 4000 ans. Pour terminer pour aujourd'hui, nous lisons dans Saint Matthieu, chapitre 21, versets 8 à 10, que quand Jésus-Christ a fait son entrée dans Jérusalem, précédé d'une multitude qui avait jeté des branches de palmiers sur le chemin, tandis que d'autres avaient étendu leurs habits le long de la route, en criant « Hosanna au fils de David », la ville entière fut émue, disant « Qui est celui-ci ? » Il se demandait avec surprise quel personnage ce pouvait bien être pour qu'on fît pour lui de pareils préparatifs. Chers amis, quand nous pensons à toutes les grandes choses qui furent faites dans tous les âges pour préparer la voie à la venue de Jésus-Christ, et quand nous nous rappelons que deux fois le monde a été bouleversé dans ce but, combien plus avons-nous raison de nous écrier « Qui est celui-ci ? Quel est ce grand personnage ? Oui, qui est ce roi de gloire que Dieu lui témoigne tant de respect et d'honneur à ce point-là ? Certainement, il est honorable aux yeux de Dieu le Père. Et mes bien-aimés, et grand doit donc être la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines études. Oui, ce sera encore quelques études très, très importantes. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose, tout simplement, pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification. Réjouissez-vous en votre Seigneur Jésus-Christ. Cette joie ouvre l'esprit à la vérité. Elle essuie les vers qui sont embués de l'entendement et votre vision en est améliorée. Ainsi, vous le voyez plus clairement et discernez mieux les besoins de votre entourage. Essayez d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Saint Matthieu 5, verset 48. Cela représente pour vous l'effort constant de toute une vie, une croissance qui n'a pas de fin. Tout en progressant ainsi chaque jour aussi vous apprendrez à mieux connaître votre Père Céleste. Il en résultera des efforts et une croissance sans cesse renouvelée. Par-dessus tout, vous éprouverez toujours davantage le besoin de tout recevoir de lui. C'est pour jeter les fondements d'un royaume qui ne doit pas connaître de limites dans son extension que le Seigneur est venu. Hélas, beaucoup de ceux qui se réclament de lui s'imaginent qu'il leur suffit de l'accepter comme sauveur personnel. Ce n'est là pourtant qu'un premier pas. Le ciel lui-même ne connaît pas la stagnation. C'est un lieu d'épanouissement progressif. Il vous faudra l'éternité pour éteindre et étreindre la pensée éternelle. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble et ensuite j'essayerai de vous mettre un ou deux chants d'un très, très lointain passé, 1972. Oh, il y a vieux de cela. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrer avec des CD. C'était un enregistreur à bande, Revox, que j'ai fait les enregistrements. Évidemment, ils sont loin d'être parfaits, parce que c'est très vieux, comme moi, je suis, il faut bien le dire, je suis aussi très vieux, vous l'avez bien compris, évidemment, bien sûr. Seigneur, combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix, de celui qui publie le salut et qui dit à Sion, « Ton Dieu règne !» Combien sont ceux auxquels on n'en avait rien annoncé, ils le verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler l'entendront. Que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière ait sa confiance au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quand les montagnes se remueraient et que les coteaux s'ébranleraient, eh bien ma bonté, dit l'Éternel, ne se retirera point de toi et l'alliance de ma paix ne sera jamais ébranlée, a dit l'Éternel. Tu ne craindras rien et tu seras sans frayeur, car elle n'approchera point de toi. J'ai caché ma face pour un moment dans le temps de la colère, mais j'ai eu compassion de toi par ma miséricorde éternelle, a dit l'Éternel, notre Rédempteur. Prêtez donc l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, gardez ce qui est droit et faites ce qui est juste. vite, car mon salut est prêt à venir et ma justice est prête à être révélée. J'habiterai avec celui qui a le cœur brisé et qui est humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit des humbles et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Je ne serai pas indigné à jamais. L'esprit sera apaisé par ma présence. C'est moi qui ai fait les âmes. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, car je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer qui est agitée quand elle ne se peut apaiser. Célébrez donc l'Éternel, car sa miséricorde dure à éternité d'éternité. Amen. Chers amis, Dieu vous aime, c'est un fait. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous embrasse tous avec tout mon amour. Soyez bénis et surtout n'oubliez pas une chose très importante. Prions les uns pour les autres, même pour ceux qui ne font pas forcément partie de votre personnelle église ou chapelle, mais priez aussi pour les autres autour de vous. Et pour que des âmes soient sauvées, c'est tellement important qu'il y ait encore des âmes de sauvées. Ce n'est pas le tout. Que vous soyez sauvés, vous et moi, seulement. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont perdus. Ne serait-il pas de notre devoir de prier pour eux? Chers amis, maintenant, je vais donc vous mettre un ou deux chants de ce très lointain passé.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him you'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to.
Thank you.
night lights are glowing. You're drawn like a moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to hear me, closing in on me. Sometimes I ask why I'm waiting, but my walls have nothing to say. I'm made for love, not for hating. So here, where you left me, I'll stay. One night with you is like heaven, and so while I'm walking the floor, I listen for steps in the hallway and wait for your knock on my door.
I'm getting better.